Bonjour à tous, on est super chanceux, on se trouve en direct des loges, donc avec Roca Traoré dans les loges du Festival Esperanza. Bonjour Roca.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Très bien, merci.
Bon, mais déjà, on te remercie de nous accueillir parce que tous les artistes ne le font pas, accepter qu'on vienne en loge avant leur concert, c'est rare, donc voilà, merci beaucoup.
Ah d'accord, non, c'est normal, merci à vous.
On a avec Hubert aussi, qui t'aime lui aussi beaucoup. Il y a David Ombelin, qui t'aime aussi beaucoup. Enfin, en fait, on t'aime tous à la radio.
Mais écoutez, j'ai beaucoup de chance alors.
On n'est pas bien difficile. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, Esperanza, c'est un festival qui est engagé. À la radio, on l'est le plus qu'on le peut. Toi, tu l'es aussi, notamment avec une de tes fondations, qui s'appelle Passerelle. Mm-hmm. Tu peux nous en toucher quelques mots alors
Oui, c'est un des projets que j'ai, qui... Oui. probablement m'a permis d'englober beaucoup d'autres projets au Mali et d'être proche des gens et avoir un réel échange. Il ne s'agit pas juste de moi amenant des choses au Mali ou un soutien aux autres, mais ça marche dans l'autre sens aussi, parce que ne serait-ce que professionnellement, la Fondation me permet de rencontrer des jeunes musiciens extraordinaires ou des musiciens tout court, souvent qui ont des carrières plus importantes que moi. Et aussi le plaisir d'être en quelque sorte entouré de musique, parce que les locaux de la fondation, la scène qu'on est en train de construire, le studio, tout se trouve autour de ma maison, qui est dans un quartier qui était avant des vergers. Donc j'ai pu il y a longtemps acheter une grosse parcelle de terrain là, que je ne pourrais pas me payer aujourd'hui. À l'époque, je voulais vivre sans électricité, etc. Et puis la ville est arrivée là très vite. Finalement, c'est un avantage parce que ça va nous permettre de construire la scène de spectacle là, et elle sera plus facilement accessible par le public, parce que le troisième pont de la ville passe à 200 mètres de là maintenant. Et pour qui connaît Bamako, les ponts sont très importants parce que la ville est située de part et d'autre du fleuve Niger. Donc voilà la petite histoire, ce qui fait qu'il y a tout un engouement des tas de gens autour de moi qui se sont appropriés aussi ce projet, qui nous permet de réaliser des spectacles qui servent d'opportunités de travail à des jeunes artistes, et en même temps d'expérience pour moi quand je crée ces spectacles-là, et aussi de source de revenus à la fondation, parce qu'on les vend à l'étranger. Surtout, malheureusement, il n'y a pas de réel circuit qui puisse rapporter de l'argent, ou de réelle économie de la musique qui puisse faire vivre justement les musiciens. C'est l'un des objectifs de la fondation, de contribuer justement à l'industrie culturelle ou au développement des industries culturelles au Mali. Donc voilà, en gros, ce qu'on fait, c'est très vaste et justement très intéressant pour cela. Ça fait beaucoup de boulot, mais toujours très très intéressant, parce que chaque projet qu'on entreprend est vraiment une expérience où on se fixe un objectif, on a une méthode précise et claire, mais on n'arrête pas d'improviser le long de la réalisation du projet pour s'adapter aux réalités du pays aussi, qui sont que eh bien, cette industrie musicale-là, cette économie de la culture en général n'existe pas, et que la mentalité va avec cela. Et les gens ont du mal, les artistes, les premiers, les professionnels, à avoir un instinct professionnel, des manières de faire. Donc c'est tout ça. Chaque projet nous permet de faire venir des bénévoles d'Europe et aussi des bénévoles qui travaillent en Europe mais sont d'origine africaine, pour pouvoir soutenir les gens là et leur donner une idée de ce que c'est que, mais par exemple, réaliser un festival dans des conditions professionnelles, ou juste un spectacle, et apprendre aux artistes à travailler avec les retours. C'est vraiment des choses, le détail qui, je pense, au bout du compte, quand ce sera réglé et coordonné, fera en sorte que les artistes eux-mêmes comprendront quelle est la différence entre une réelle économie culturelle et l'informelle.
Et toi, tu t'investis concrètement dans cette association. J'ai entendu que tu participais aux cours des chants, enfin que tu donnais des cours des chants, et ensuite voilà, que tu suivais les artistes que tu avais découverts, que tu pouvais parfois les inviter à participer à tes concerts. Et en tout cas, voilà, qu'il y avait un vrai suivi. C'est pas un stage qui est organisé, qui dure un mois, et puis après, vous ne vous revoyez plus.
Oui, justement, au début, c'est vrai que j'avais envie de faire ces stages-là une fois par an, faire un spectacle de fin de stage, et puis voilà. Et très vite, on se rend compte que ça ne sert à rien, parce que...
C'est taché.
Mais on est déjà les premiers avec lesquels j'ai travaillé. Je suis obligée. Au début, c'était pas le but parce que je pensais pas que j'en serais capable de faire toute l'organisation, la recherche de budget, etc. Pour le moment, on n'a que 3 dans la fondation. 2 bénévoles, ma meilleure amie depuis 20 ans, qui s'occupe, qui est la directrice de la fondation. L'administratrice qui est la seule salariée, mais encore, elle a pas un salaire énorme et qui est une jeune femme. Femme qui nous a suivis dans l'aventure en sortant d'école, et puis moi-même. Donc ça fait que quand on organise des projets, il faut faire attention. Je me disais que je ne pourrais jamais faire tout le suivi, l'organisation. Parmi tous ces gens-là, je suis la seule à avoir une réelle expérience en termes d'organisation de spectacle, et que je ne pensais pas pouvoir aussi donner les cours de chant. Mais très vite, il a fallu que j'assure cela quand même, puisque un prof de chant revenait à un minimum le moins cher à travers des profs de chant que je connais moi-même et qui ont vraiment baissé leur prix, c'est 500 € par semaine. Et je me suis dit que ce serait indécent. Moi, j'aurais eu les moyens de payer quelqu'un pour ça, mais pour des jeunes qui n'ont pas 500 € par an, qu'ils sachent que quelqu'un est payé 500 € par semaine pour leur donner des cours, enfin ça n'avait pas de sens. Et je me suis dit ok, en plus il y a un avantage à ce que je donne les cours moi-même, c'est que la notion de technique de chant enseignée comme je l'ai connue moi est très européenne, c'est pas africain, et que au Mali j'avais déjà discuté avec des musiciens qui avaient pris des cours de chant qui n'avaient rien compris, parce que justement il y a cette barrière culturelle, et le fait que j'ai une double culture et que les deux langues sont mes premières langues, le français et le bambara à la fois, je me suis dit que ce serait mieux d'ailleurs que ce soit moi qui donne les cours de base, et que dans l'avenir si on a les moyens des institutions qui peuvent nous payer des cours de chant, ce serait bien qu'ils aient des expériences en spécifiant dans le jazz ou le chant lyrique, etc. Mais les prémices, il était essentiel que ce soit de quelqu'un qui puisse passer du français au bambara pour mieux faire comprendre les choses. Et ça a très bien marché. C'était épuisant pour moi parce que ça faisait des cours pour un groupe de 16. J'avais deux groupes de 8 le matin et l'après-midi. Donc il y avait aussi des cours de danse pour la mise en forme, en condition et tout, de réchauffement, détente avant les cours de chant. Donc on s'est débrouillé sur 3 semaines. Ça s'est très bien passé. Les élèves ont compris la notion et on a gardé les 10 premiers. Les dix meilleurs élèves pour créer une chorale par la suite, et du coup on suit à travers la chorale et tous les projets qu'on fait avec la chorale où ils ne participent pas forcément tous parce que ça dépend des budgets qu'on a, mais on est avec ces 10 artistes là, et c'est ça au fil des cours du stage je me suis attachée, disons, et je me suis aussi reconnue à travers ces jeunes. Je me suis rappelée mes débuts, à quel point c'était important pour moi d'avoir eu un coup de fil du directeur du Centre culturel français de Bamako, qui m'avait vu à la télé et m'avait offert l'opportunité de répéter dans son centre. Ce genre d'offres, je n'en ai pas eu d'institution malienne. Et souvent, ils ont beaucoup trop de choses à faire pour s'occuper comme ça spécifiquement de culture ou d'avoir des budgets pour soutenir des jeunes artistes. Et ce n'est pas sont pas des critiques, parce que je pense qu'ils font de leur mieux et que dans nos pays en Afrique, il y a tellement de priorités que malheureusement, des fois, on ne s'occupe pas de l'essentiel. Parce que la culture aujourd'hui en Afrique est probablement aussi importante que la santé et que l'éducation, parce que c'est vecteur de tout cela en même temps. Mais il n'est pas évident d'attirer l'attention de la communauté internationale sur cela et de nos dirigeants sur cela. Cependant,
Tiken Jafakoli, il y a 2 ans, il nous disait que selon lui, voilà, en Afrique, alors peut-être pas la révolution, mais en tout cas, voilà,
le changement.
C'est ça, le début du changement commençait forcément par la culture. Que les lois, etc., c'était bien, mais que...
Oui, parce que le début du changement, c'est déjà qu'on se respecte entre Africains et qu'on se connaisse. Et il n'y a pas meilleure façon de mieux nous connaître et connaître notre histoire que la culture. Donc voilà, c'est pour tout ça. Et à un moment, en même temps, on a chacun un rôle à jouer. Je le dis aux dirigeants africains que je peux rencontrer, parce que je n'aime pas trop l'idée de les critiquer quand je suis sur des antennes à l'étranger et ne pas pouvoir leur dire ce que je pense. Mais je pense sincèrement aussi que même si je n'ai pas les moyens qu'ils ont, moi ainsi que chaque Africain qui l'a compris, a un rôle à jouer et une contribution à apporter, et j'essaie de le faire à travers la fondation. Donc deux des jeunes sont avec moi sur ce projet d'album et sa tournée, Bintou et Fatim, que j'ai rencontré lors des auditions, et elles ont entendu les annonces radio, elles se sont présentées. Donc par la suite on a participé à plusieurs, enfin elles ont participé à plusieurs projets avec moi, dans l'enregistrement de l'album et la tournée de l'album maintenant. Les 8 autres ont participé à d'autres projets avec Bintou et Fatim et moi-même sur d'autres choses. Et là encore en décembre, on part sur la création de Roots 2, qui est Roots, c'est le spectacle créé avec la chorale, auquel participent certains des jeunes, pas tous toujours. Et Bintou et Fatim vont sortir de ce spectacle parce qu'elles tournent maintenant régulièrement avec moi, et d'autres vont entrer, et on va reprendre. C'est un projet basé sur des reprises de classiques maliens ou africains, ou de pop ou de reggae, et on va changer de registre et impliquer d'autres jeunes et repartir à partir du mois de décembre sur quelques dates. Donc voilà, c'est ce qu'on fait au fil des opportunités et selon mes revenus aussi. Et on continue la construction de la scène au Mali. Et tout ça, eh bien, c'est enthousiasmant, en tout cas. Voilà.
Effectivement, la culture, c'est aussi un vecteur de fierté hein, pour l'Afrique. Il y a une culture tellement riche, tellement forte, qu'effectivement, la développer pour l'extérieur, c'est aussi intéressant.
Oui, la développer pour l'extérieur, mais justement, ça fait à travers l'existence de la world music depuis une vingtaine, 25 ans maintenant en Europe, et puis le développement de ce genre musical, et la musique africaine en fait partie. Il y a beaucoup qui a été fait par rapport à la découverte de la musique africaine par l'Europe. Maintenant, on atteint une étape où il est important que le projet se crée en Afrique et qu'on crée les circonstances que les Africains voient ces projets, les circonstances que les artistes africains et promoteurs africains se rencontrent, et ensuite qu'on porte ces projets à l'étranger. Parce que je ne suis pas en train de dire que l'Europe a un devoir de faire ça pour l'Afrique, etc. Je ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes africains qui ont une certaine expérience, mais qui n'ont pas les conditions réunies en Afrique pour apporter leur expérience, faire bénéficier leur pays ou leur continent de leur expérience. Et comme cet engouement pour la culture africaine existe bien ici, je pense que ça ne coûte pas grand-chose au festival, au théâtre, de juste déplacer le lieu des créations, venir faire des créations en Afrique et ensuite partir avec les montrer en Europe. Cette manière de procéder ferait qu'il y aurait un peu plus de justice, entre guillemets, dans la manière dont les choses se passent. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur de la culture africaine et de l'art africain est quand même pour l'Europe et pas forcément pour l'Afrique, pour toutes ces raisons dont je viens de parler. Et d'ailleurs, artistiquement et professionnellement, à long terme, et on voit déjà les effets, il y aura des conséquences. Parce que dans quelle mesure est-ce que notre culture et nos arts seraient capables de se développer et connaître un réel dynamisme et une dynamique qui puisse garantir une préservation du passé et en même temps une continuité par rapport à tout ce qu'on a comme lien aujourd'hui avec d'autres pays européens. Voilà une évolution, et qu'il y ait aussi en Afrique la notion de
classique, contemporain, actuel, qui pour le moment il n'y a pas, parce que justement tout est mélangé et qu'il n'y a pas de réel marché en Afrique, et que nous sommes tous des artistes africains, que ce soit dans la musique, le théâtre ou dans d'autres domaines, qui lorsque nous vivons bien de nos métiers, c'est grâce à l'Europe. Et ça n'est pas juste. Et ça a surtout des conséquences qui, sur le futur de la culture et de l'art africain.
Revenir à ton travail, à toi, au niveau musical, tu parlais du passé et du futur, de l'évolution. Toi, tu as évolué, alors tu as une double culture, tu étais, je pense, la fille d'un diplomate, donc tu as vécu dans plusieurs pays. Dans quel pays tu as vécu
Le plus longtemps dans mon enfance et mon adolescence jusqu'à la fac en Belgique, à Bruxelles. Et ensuite, il y a eu l'Arabie Saoudite, l'Algérie et les États-Unis à New York, qui a été un des postes de mon père où je ne l'ai pas suivi. Donc, voilà.
Et tu as senti que tu t'es imprégné des cultures de chaque endroit où tu as vécu ?
D'une manière ou d'une autre, oui. Quand on va à l'école, entre les enfants et entre enfants ou adolescents. Et aussi à travers mes parents qui sont des gens très ouverts et très curieux. Et mon père qui a toujours eu cette volonté-là que nous gardions que nous puissions nous enrichir de tous ces voyages. Et pour lui, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il aimait avoir des postes à l'étranger.
D'accord. Mais tu restes attaché à tes racines quand même, donc tes parents ont quand même t'ont transmis cette tradition ou pas ?
Forcément, c'est l'un des avantages d'avoir grandi la manière dont j'ai grandi, contrairement à des personnes d'origine africaine de deuxième génération qui ne sont jamais allées dans leur pays d'origine ou que rarement et qui ne parlent pas la langue d'origine. Moi, j'ai tout le temps fait des allers-retours à travers les vacances, à travers les années qu'un diplomate doit passer dans son pays avant de repartir. Donc, il n'y a jamais eu de réelle rupture et ça a fait que j'ai appris les deux cultures en même temps.
Et c'est pour ça aussi que tu as un look... Allez, on va dire plutôt style européen. En tout cas, c'est pas l'artiste traditionnel africaine avec les tresses ou le boubou. Et je vais même dire qu'on t'imaginerait pas trop comme ça.
Oui, c'est vrai que ça prête à confusion, même au Mali. Mais, alors, j'ai été découverte là. À un moment, j'ai arrêté mes études plus tard à l'ULB pour retourner au Mali, créer le groupe. Donc, tout a toujours commencé pour moi au Mali, professionnellement. Mais c'est hallucinant. Les gens m'entendant parler français ou anglais s'imaginent que je ne parle pas bambara et que je ne fais que chanter en bambara. Et aujourd'hui encore, donc, il y a des bons amis comme ça qui ont des discussions violentes avec les gens. Ils disent, mais vous ne la connaissez même pas, qu'on dit, mais c'est une européenne, elle ne parle même pas bambara. Ou alors des gens qui sont surpris en m'entendant parler bambara, qui me disent, mais tu parles bambara, et surtout avec l'accent bambara. Et je dis, mais bien sûr, parce que mes deux parents viennent de cette région et que c'est avec eux que j'ai passé le plus de temps. Et qu'aujourd'hui encore, je viens d'une... au-delà de l'ethnie, une famille qui est une petite principauté, en quelque sorte, qui sont vraiment une identité très forte. Et aujourd'hui encore, lors des fêtes familiales, dès qu'on arrive et qu'on se retrouve entre nous, on bascule dans cet accent-là spécifique de cet endroit du Mali. Donc, il y a ce mélange qui, en même temps, le look, les tresses, ça se discute parce que après, on est tous influencés par, quand on est femme, par sa mère et tout. Ma mère, dans son adolescence déjà, avait les cheveux, le crâne rasé. Elle est d'origine Sénoufo et les femmes Sénoufo se rasent le crâne. Les femmes bambara également, donc mon père est bambara. Et même si ma mère elle-même ne voulait pas, parce qu'après dans la ville c'est mal vu, il faut se tresser et tout. Au début, j'ai jamais supporté les tresses. Et puis un jour, dans mon adolescence, c'est mon père, les disputes pour les tresses le week-end, s'est dit ok, on va en finir. J'ai la tondeuse, tu viens, on enlève ses cheveux. Et puis depuis, je me rase le crâne et des fois je laisse les cheveux pousser. Mais c'est très naturel, c'est pas... forcément d'ailleurs lié à mon côté européen, c'est ça le paradoxe. C'est quelque part, je suis plus proche de l'Afrique, du Mali rural et de l'Europe que du Mali urbain, donc où il y a effectivement cette tradition de tresse, de femmes toujours très belles, très maquillées, très apprêtées. Les femmes bambara sont très simples et ce sont des bosseuses. C'est des femmes qui cultivent autant que les hommes. Et j'imagine que, enfin aujourd'hui encore, quand on va dans ces villages-là, la plupart d'entre elles ont le crâne rasé, elles n'ont surtout pas le temps de se tresser.
Alors, le fait que tu parles des femmes, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'on sent dans ton dernier album notamment, mais même dans les précédents, voilà, une vraie volonté de mettre la femme à l'honneur et de montrer que le début du changement, ce sera aussi avec la femme. Alors, il y a un sujet qui est sensible en Afrique, hein, le sujet de l'excision. Comment ça se passe concrètement ? Je sais que tu en parles. Alors voilà, après, les mentalités sont difficiles de changer. Et surtout, ce qu'on ne sait pas trop en Europe, c'est que voilà, ce ne sont pas tant les hommes ou les maris qui imposent à leurs femmes de se faire exciser, mais c'est bien les femmes elles-mêmes qui proposent.
Donc, c'est une affaire de femmes.
Voilà, donc toi, concrètement, ton rôle, c'est d'essayer d'aller parler à ces femmes et de leur faire entendre ton point de vue, ou tu penses que c'est plus un problème de mentalité générale et que ce sera un problème encore beaucoup plus complexe que ça à gérer?
Eh bien, déjà, au-delà du fait de vouloir montrer que la femme a un rôle, que le développement se passera par elle et tout, c'est que j'ai énormément de respect pour cette femme africaine-là. Et comme, par exemple, je parlais des femmes Bambara, c'est valable pour d'autres ethnies en campagne. Parce que, par exemple, lorsqu'il y a une famine, il n'y a pas forcément de fonds africains ou du pays en question pour soutenir les villageois. C'est chaque ressortissant dans les grandes villes et dans les pays européens qui cotise au Mali, par exemple, pour aider, soutenir son village, sa région. Et donc, on reste toujours très, très proche du village. Et je sais de quoi je parle. Ces femmes sont extraordinaires. J'ai toujours admiré leur force et leur courage. Et aussi, tout ça sans qu'elles en aient conscience. Voilà, pour elles, c'est leur vie, c'est normal, c'est comme ça. Et justement, le sujet de l'excision est très délicat. Encore une chose dont je peux dire que je sais de quoi je parle, ma mère a été assistante sociale, elle est à la retraite maintenant. Et lorsqu'elle n'était pas à l'étranger avec son mari, elle travaillait au Mali. Et par exemple, des sujets comme l'excision, la sensibilisation se fait à travers les centres sociaux, énormément, beaucoup plus que toutes les associations dont on peut entendre parler ici. Ce sont les services sociaux gouvernementaux qui font un travail énorme de porte-à-porte dans les villages, discussions avec les femmes. Et j'ai souvent accompagné ma mère. Et c'est une affaire de femme, l'excision. C'est que c'est juste une... Le paradoxe est magnifique, quelque part. Parce que la force, quand on excise une jeune fille, on dit qu'on la rend femme et qu'on la rend plus forte.
Et plus belle, même, aussi.
Et plus belle. Donc, c'est vraiment une notion différente que je ne soutiens pas, mais qui demande qu'on considère ce problème sur un plan culturel, sur un plan sociologique, plus que d'amener le sujet comme les gens le prennent là-bas, une leçon de plus qui viendrait de l'Europe. Parce que, encore une fois, ça n'est pas bien, mais la question est comment faire comprendre que cette force de la femme, on peut la préserver, les femmes peuvent encore la procurer à leurs filles sans passer par l'excision. Et que justement d'être en contact avec d'autres parties du monde permet toujours de s'enrichir, et qu'avec le temps, on a vu que ce n'était pas essentiel d'être excisé pour avoir cette force-là qui fait que tout pèse sur les épaules des femmes. Parce que quelque part, les rendre fortes, que toutes assez fortes pour jouer leur rôle, c'est que pour cela, il faut leur enlever le désir. Et les femmes sont d'accord là-dessus. C'est comme ça. Pour elle, le désir n'est pas, la féminité ne passe pas par le désir. Donc ça, le débat va loin. Et que après,
c'est vraiment une mentalité à changer, rien à voir avec une loi à imposer.
Non. Et les lois, bien qu'elles soient ce qu'elles sont, devraient tenir compte de cela. Et que ça ne sert à rien d'imposer, parce qu'elles se cachent pour faire l'excision, parce que pour elles, leur féminité passe à travers ça. Et quelque part, ça fait d'ailleurs de la peine que quand on y réfléchit, qu'on en arrive là à des gens qui se cachent pour exister et être comme ils sont, ce qu'ils sont, et faire les choses comme ils pensent que ça devrait être, parce qu'ils se sentent obligés, parce qu'il y a quelque chose qui leur est imposé, une chose de plus de la part de ce colonisateur blanc qui est parti mais qui impose toujours. Voilà exactement la manière, les questions que, à travers ce que j'ai déjà pu entendre lors de campagnes que ma mère menait, et évidemment expliquant pourquoi il ne faut pas. Et j'ai vu ma mère et ses équipes faire des choses extraordinaires sur la durée d'un week-end, faire changer et adhérer les associations de femmes dans un village à leur opinion, mais ça passe à travers beaucoup de choses. Déjà, quand ma mère et ses équipes arrivent, ces femmes-là arrivent avec leurs plats en les accueillant en disant « Bon, vous venez de la ville, vous n'avez pas aimé ce qu'on a cuisiné, mais... » Quand même, ça fait partie de notre culture d'accueillir avec la nourriture. Voilà, c'est pas très riche, hein, on n'a rien de bien, assez bien pour vous. Vous êtes quelque part blanc, mais voilà. Donc, en n'étant même pas sûre qu'elles vont accepter de manger ce qu'elles ont cuisiné. Donc d'abord, ma mère qui est de la campagne à la base, elle sait très bien comment ça se passe. La première chose à faire, c'est de bien manger ce qu'on vous a offert, c'est de boire l'eau qu'on vous donne, et ensuite on discute. En montrant qu'on est pareil, on ne vient pas vous voir en vous prenant de haut, on vient vous voir dans le but d'échanger et de vous expliquer ce qu'on pense, que vous nous expliquiez ce que vous pensez, et qu'on trouve un équilibre dans cela. Et à partir de là, les choses se passent bien. Et quand ils parlent de là, il y a des femmes qui disent « Ok, d'accord, donc ça n'est pas forcément parce qu'on n'excise pas une femme qu'elle va être légère et ne penser qu'au plaisir. » Eh bien non. Et oui, et puis donc voilà, parce que par la suite, les femmes sont excisées, mais par contre, elles ont recours à des tas d'astuces pour ne pas connaître les problèmes de la sécheresse vaginale. Et la plupart d'entre elles ne savent pas que c'est lié.
Ah oui, donc au niveau même de la santé, il n'y a pas de lien qui a été officiellement établi.
Non, la plupart des femmes qui pratiquent l'excision et des ethnies qui pratiquent l'excision ne savent pas. On ne parle, la sexualité, il y a un autre problème, c'est qu'avant, ces débats-là autour de la sexualité étaient tenus lors d'une étape de l'existence qui était du passage de l'état de jeune fille. Justement, au moment de l'excision, il y avait les dames avec lesquelles on partait, qui enseignaient tout cela. Et puis aujourd'hui, on fait l'excision pour faire l'excision, ça n'est plus accompagné de tout ça. Donc, les débats autour de la sexualité n'existent quasiment plus en campagne en Afrique, dans les zones où on fait l'excision. Donc, il y a eu une déconnexion. Beaucoup d'entre elles ne savent pas qu'il y a un lien entre beaucoup de soucis créés par l'excision et l'excision. On ne fait pas le lien. Donc, déjà expliqué, et je pense que c'est de cette manière-là, et du coup, c'est à travers l'éducation de la jeune fille que le plus gros progrès en matière d'excision sera fait. Ça n'est pas en imposant des lois, parce que évidemment, on va se cacher pour faire l'excision. En apparence, il y aura moins, on va montrer des chiffres, mais dans la réalité, les choses n'auront pas changé dans les mentalités et le statut de la femme n'aura pas pour autant évolué.
C'est déjà ce qui se passe un petit peu maintenant. Hein.
Beaucoup, je parle de ma mère.
Voilà. En fait.
Mais ça, déjà, il y a eu des progrès, c'est clair, mais probablement moins que ce qu'on croit et moins par les biais qu'on croit. Moi, je sais que ce dont je parle, j'étais enfant, ma mère est à la retraite depuis une dizaine d'années maintenant, et ce travail-là continue. En même temps, les assistantes sociales et les infirmières de sa génération se plaignent du non-sérieux dans le travail et le refus aussi des jeunes d'aller en campagne mener ces sensibilisations et tout. Donc, probablement, les investissements sont à faire ailleurs pour soutenir les actions et pas forcément là où on les met pour le moment. Mais en tout cas, cette génération qui est celle de ma mère, on fait un sacré travail et dont on bénéficie, nous, aujourd'hui, des femmes de la trentaine, de la prise de conscience de femmes plus âgées qui, en réalité, c'est pour ça que je n'aime pas prétendre que je me bats pour la cause de la femme, parce que j'ai une mère qui l'a réellement fait et c'est un réel boulot sur le terrain. Et pas sur les médias en Europe. En plus, moi, ça me sert de publicité pour ma carrière, donc j'ai un peu honte de faire ça, quoi.
Alors, nous, on n'a pas du tout honte que tu le fasses. On aimerait bien continuer à parler avec toi longtemps, sauf qu'apparemment, on doit s'arrêter.
On est limité par le temps.
Voilà.